Le temps qui passe, le temps perdu, la course contre le temps de temps en temps, prendre son temps. Avec quel temps? Plus long, trop long, plus vite, trop court. Le temps retrouvé pour refermer à la recherche du temps perdu. Et si on lisait Proust à haute voix, mieux qu'un passe-temps.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Depuis quelques années déjà, Véronique Aubouy a fait le choix de vivre avec Proust. Marcel Proust, auteur majeur du XXe siècle, dont bon nombre considèrent que son roman À la recherche du temps perdu, publié entre 1913 et 1927, est l'un des livres majeurs de la littérature francophone. Quand les Proustiens, car le nom propre a donné un adjectif et créé une quasi-secte, les Proustiens considèrent que ce roman de 1,5 million de mots est le livre absolu, quasi une trace indélébile. Bonjour Véronique Aubouy.
Bonjour.
Être ou ne pas être Proustien? Vous répondez quoi à cette question? L'êtes-vous?
Bien sûr.
Bien sûr.
Oui. Mais depuis tellement longtemps en fait, depuis que j'ai ouvert le livre. Voilà, j'ai été happée et je suis vraiment, c'est un état depuis 30 ans.
Être proustienne ou proustien?
Proustien.
Proustien.
Puisque je suis le narrateur.
Vous avez découvert ce livre comment?
Alors, je l'ai découvert, je l'avais déjà commencé plusieurs fois. Je fais partie des gens, vous savez, qui le commencent et puis qui n'arrivent pas tout de suite à rentrer dedans. Et puis, un jour, je suis partie en Amérique du Sud, j'avais 26 ans. J'ai fait un long voyage de un an. Et dans le fond de mon sac, j'avais mis le premier tome de La recherche du temps perdu. Et au bout de 6 mois... Voilà, je voulais rentrer, je voulais voir mes parents, j'étais toute seule au loin, sur un lointain plateau de Bolivie. Et là, j'ai sorti le livre et c'est là où j'ai retrouvé voilà toutes les odeurs, les vieilles armoires avec le linge. J'ai retrouvé vraiment voilà mon enfance, mes grands-parents, par la lecture.
En lisant Proust et ensuite les autres volumes ont suivi ou il y a eu des pauses? Parce qu'il y a 7 tomes quand même dans À la recherche du temps perdu, donc c'est quand même énorme.
C'est énorme, alors en fait je l'ai lu sur 2 ans. Par contre, je l'ai lu sans cesse.
Et c'est une écriture qui a la réputation d'être difficile. Qu'est-ce que vous en dites, vous, grande lectrice de Proust?
Moi, je dis qu'il faut ouvrir le livre n'importe où et qu'il faut prendre des phrases qui nous parlent. La raison pour laquelle il y a des Proustiens, dont vous parliez tout à l'heure, c'est que vraiment, c'est un livre qui parle de nous, qui s'adresse à nous. Bon, il y a le « je », hein, le narrateur, il dit « je ». Et donc, quand on le lit, on devient le narrateur et il parle, au fond, de tout ce qui concerne l'âme humaine. Il parle des émotions, des sentiments. Voilà, tout le monde, un jour, quand il était enfant, a eu des angoisses la nuit, la peur d'aller se coucher, sans le baiser de sa maman. Voilà, on aime, on a envie d'avoir une place dans le monde, on est jaloux. Et voilà, tout ça, ce sont des sentiments qui parlent. Et donc, le lecteur, il sent qu'on parle de lui.
Voilà donc votre expérience, Véronique Aubouy, de lectrice pour soi. Mais vous avez fait le choix, j'ai envie de dire presque le pari, de lire Proust à haute voix.
Oui. C'est-à-dire que moi, je suis cinéaste. Hein. Et un jour, voilà, ça faisait plusieurs années déjà que j'étais avec ce livre qui ne me quittait pas. Et je me suis dit, alors voilà, il faudrait que je fasse un film. Comme ça, je pourrais me débarrasser de cette obsession. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, alors un film, alors le narrateur, il aurait quelle tête? Oh mais non, le narrateur n'a pas de tête, c'est pas possible de figurer le narrateur. Parce qu'en fait, le narrateur, c'est moi, c'est le lecteur. Et c'est là où l'idée m'est tombée dessus, mais vraiment, comme ça, la boum, tu vas faire lire toute la recherche par des gens de tous horizons, de tous milieux, de toute génération et dans le temps. Et une fois que j'ai eu cette idée, j'étais bien embarrassée parce que je me suis dit, c'était dans les années 90, à l'époque, c'était pas simple de faire de la vidéo, il fallait aller dans des grosses stations de montage, enfin, c'était bien moins léger qu'aujourd'hui. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est une idée absolument incroyable qui va m'accompagner pendant des années. Alors, au début, je pensais que ça allait être 20 ans, mais c'était beaucoup plus.
Donc, vous jouez avec le temps,
oui,
qui est quand même le sujet de la recherche du temps perdu et l'un des sujets de l'œuvre proustienne. Mais vous jouez avec le temps dans son extension et sa contraction parce que dans le même temps que vous réalisez ce film, vous avez fait aussi le pari, car c'est un pari, de raconter À la recherche du temps perdu en 60 minutes.
Oui, ça c'est une sorte de conséquence un peu de ce long travail de 30 ans. Et un jour, voilà, j'aime beaucoup raconter la recherche. J'aime beaucoup ça. Voilà, c'est un plaisir de raconter parce que ça se raconte vraiment. C'est-à-dire que voilà, ça se raconte dans le temps, ça se raconte. Il y a une histoire qu'on peut suivre, il y a l'évolution du narrateur qui est d'abord petit dans le premier tome et puis adolescent dans le deuxième. Ensuite, il devient jeune homme et puis après, il devient homme mûr. Et voilà, donc il y a vraiment une vraie histoire à raconter.
Et c'est ce que vous faites en 60 minutes, la contraction totale de cette œuvre immense en l'espace d'une heure. Alors on va continuer à parler de Proust et à raconter vos projets, Véronique Aubouy, car tout cela est très sérieux. Mais d'abord on va blablater, qui est un verbe qui existe, je ne sais pas chez Proust, mais en tout cas dans le Larousse. Ailleurs, c'est la chronique du lundi. Ailleurs nous emmène aujourd'hui en Irlande avec Bérangère Langlois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des cours de l'Alliance française d'Irlande, donc à Dublin, qui est la première dans un pays d'Europe non francophone. Donc jusque-là, tout va bien. Mais alors, vous avez eu l'étrange idée d'appeler vos cours le French Teachers Boot Camp. Mais pourquoi ?
Alors, c'est une grande formation annuelle proposée aux professeurs irlandais qui enseigne le français dans le secondaire, et notre communication passe essentiellement par la langue anglaise, c'est vrai. Mais ensuite, la formation d'une semaine à destination donc de ces professeurs irlandais de français langue étrangère se fera bien évidemment en français. Tout va bien.
Tout va bien. 25 professeurs d'un coup, c'est un événement un peu exceptionnel pour vous ?
Oui, surtout on arrive à les réunir de toute l'Irlande. C'est un petit pays, mais on a du mal, nous étant basés à Dublin, de toucher à chaque fois des gens qui sont beaucoup plus loin. Donc c'est chouette aussi de pouvoir réunir les professeurs d'un peu de tous les quatre coins du pays, avec des réalités différentes, des situations différentes à chaque fois. Donc c'est très important pour nous. C'est une des missions de l'Alliance française de former les professeurs locaux.
Et est-ce que c'est très important aussi pour eux ? Comment ils sortent de cette semaine de formation ?
Ils sortent un peu fatigués, un peu épuisés, parce que c'est beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts pendant une semaine. C'est 5-6 heures de formation par jour, un bain linguistique français total. Donc ils sortent un peu lessivés, mais très heureux, et avec plein de nouvelles activités à prévoir pour septembre. On cherche vraiment à leur procurer des idées, des nouvelles ressources pour qu'ils puissent dynamiser leurs cours.
À Dublin, je crois qu'il y a 3500 étudiants qui, tous les jours, de tous les âges, viennent apprendre le français. J'ai le sentiment que la francophonie, le français, se porte plutôt bien en Irlande. Est-ce que vous validez cette impression et pour quelles raisons ?
Alors tout à fait, 3500 étudiants, plus de 6000 inscriptions, parce que ces étudiants se réinscrivent en plus, on a un public fidèle, les Irlandais sont francophiles, ils partent souvent en vacances en France également, ils possèdent des maisons secondaires en France, on pense souvent que votre voisin est anglais, mais en fait la moitié des voisins anglais est irlandais en France, et on a également la chance de bénéficier d'un public très hétérogène au niveau d'autres nationalités, parce que Dublin attire énormément de Brésiliens, d'Espagnol, d'Italien, il y a à peu près le monde entier grâce à tous les GAFA en fait, qui sont installés à Dublin. Donc c'est aussi un public du soir pour le coup qui est très intéressé par développer d'autres compétences linguistiques.
Et qu'est-ce qui les intéresse dans le français ?
Alors généralement ce sont des jeunes 25-30 ans qui travaillent donc encore une fois dans l'high-tech à Dublin, qui sont déjà bilingues, voire trilingues, et ils vont chercher à développer donc des compétences en français pour pouvoir ensuite pouvoir travailler sur le marché francophone par exemple dans leur boîte, que ce soit le Benelux ou l'Afrique. Beaucoup aussi souhaiteraient tout simplement partir ensuite d'Irlande pour travailler à Paris, à Bruxelles. Voilà, on attire aussi ce public de travailleurs.
Merci beaucoup Bérangère Langlois et bon camp de prof de français, puisque j'essaye de traduire. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Tu es a estrela que guia o meu coração. Tu es a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tal, dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vinda a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste.
Véronique Aubouy, vous avez entendu, tout comme les auditeurs, un extrait de Maria, le nouvel album de Carminho, qui est donc une jeune chanteuse de fado. Alors, je vous présentais comme proustien, mais il faut dire, et vous l'avez dit vous-même, que vous êtes cinéaste, réalisatrice, avec pas mal de films documentaires, mais aussi de films de fiction dans votre œuvre. Vous avez vu les autres films faits autour de Proust? Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Volker Schlondorf, il y a eu Chantal Akerman, il y a eu Raoul Ruiz. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire ce genre de film?
Non.
Pourquoi?
Jamais. Non. Mais vraiment parce que moi, je, dans tout mon travail d'ailleurs, aussi dans mes autres films, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le lecteur. Parce que le livre n'existe pas sans son lecteur. Et le lecteur, c'est la personne vraiment qui fait vivre le livre aujourd'hui, dans notre époque. Hein, qui le réanime et qui lui donne une autre vie et qui permet au livre de continuer comme ça dans l'infini, tant qu'il y aura des lecteurs. Oui.
Donc vous avez fait un film de lecteur.
Oui, mais même dans mes autres films aussi, je travaille vraiment cette personne hybride. Parce que quand on lit un livre, on est à la fois ce qu'on est là quand on est en train de lire le livre. Je ne sais pas, on est sur une plage ou en train de marcher ou dans un café. Et on est aussi le personnage du roman qu'on est en train de lire. Donc, on est vraiment une personne hybride qui m'intéresse beaucoup, qui est pleine, qui a deux vies, qui a plein de vies.
Et c'est selon ce principe que vous avez d'ailleurs monté ce film, puisque les lecteurs de Proust que vous filmez sont pris dans leur environnement quotidien.
Oui, c'est ça. C'est eux qui choisissent hein, le lieu où ils vont être filmés. Ils n'ont pas le choix du texte parce que c'est le prochain texte. On avance dans l'ordre, du début à la fin.
Combien de pages? Deux pages chacun, c'est ça?
Deux pages. Au début, je faisais trois pages. Et puis, j'ai raccourci parce que c'était...
C'est long.
Voilà, c'était long. Il y avait des gens, comme je fais lire principalement des gens qui n'ont pas l'habitude de lire, c'était long pour eux.
Donc, ils choisissent leur environnement, mais pas leur page. Et on se retrouve aussi bien dans une étable, sur une plage, en bord de route. Ou quel est l'endroit le plus incroyable qu'il vous ait été donné de filmer avec un de ces lecteurs de Proust?
Alors, c'est difficile. Il y en a tellement des endroits incroyables. J'ai filmé dans une roue, vous savez, les grandes roues, là.
Oui, de foire foraine.
Oui, d'ailleurs, j'ai eu très peur. J'ai eu du mal à faire ce plan. Mais il y a tellement d'endroits, dans des bateaux, dans des trains, sur l'eau, bien sûr, dans l'eau. Enfin, voilà, rien ne me vient, là, mais il y a...
Et Proust résiste à tout, tous les environnements.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plus il se passe de choses dans l'image, c'est-à-dire quand on est dans la rue, en extérieur, ou plus les images, enfin, les images lues, c'est-à-dire ce qui est raconté dans le roman, a une sorte de prolongement comme ça. Par exemple, si je lis un passage sur la couleur de la robe de la duchesse de Guermantes et qu'il y a une dame qui passe derrière avec un foulard rouge ou une robe ou un manteau un peu particulier, tout de suite, l'imaginaire va se projeter.
Alors, le premier lecteur était un homme. Oui. C'était le 20 octobre 1993. Vous aviez donc là vos deux ou trois premières minutes de film. Que s'est-il passé depuis? Combien d'heures de cinéma avez-vous réalisé?
Alors aujourd'hui, le film dure 134 heures.
134 heures. Et vous n'êtes pas à la fin?
Non, je suis dans l'avant-dernier tome que j'ai commencé cet été, l'été dernier. Et donc 134 heures, hein, ça veut dire concrètement que si on fait une projection non-stop, comme j'adore les faire... On commence par exemple le lundi à 18h, ça se terminera le dimanche vers 3-4h du matin.
Donc c'est un temps plein.
Voilà, non-stop.
Oui. Et à l'arrivée, il y aura à peu près 200 heures une fois que vous aurez tout fini.
En fait, c'est difficile à dire. Je ne peux pas imaginer finir, en fait.
Ah.
Ouais. Enfin, bon, je change d'avis un peu régulièrement à ce sujet, mais là, vraiment, je me dis que... Parce que c'est devenu tellement une façon de vivre, une manière de vivre. Hein. Je fais ça un peu comme je mange, je dors, je vais filmer. Hein. C'est-à-dire que ce film me permet de filmer quand je veux. Quand on est cinéaste, on a souvent des longues périodes pendant lesquelles on ne filme pas, parce qu'on attend de faire les films. Eh bien là, je suis cinéaste tout le temps. Demain, je peux aller filmer si j'ai envie.
Véronique Aubouy, rapide collage de quelques extraits de votre film Proust lu. Vous nous raconterez ensuite qui parle.
À peine j'avais prononcé ces mots, votre voyage de 3 jours à Balbec, je le dis en passant, Albertine, me coupant la parole, me déclara comme une chose toute naturelle.
Je voulais dire que ce voyage à Balbec n'a jamais eu lieu, bien sûr. Et je me suis toujours demandé pourquoi vous avez fait celui qui y croyait.
Des vidèles, je servais un dernier verre de vin, détaché de son cou sa serviette.
Swann les toucha infiniment. En croyant devoir demander de tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir, on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué, elle avait le visage excessivement rouge, comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle s'inclina devant Swann.
Véronique Aubouy, vous vous souvenez de ces lecteurs là dont on a entendu quelques secondes simplement de lecture?
Oui, alors les deux premières, les deux jeunes filles, c'est assez récent. Le tournage, ça date de l'année dernière. Elles étaient à Athènes, derrière il y a le Parthénon. Et voilà, ce sont des jeunes étudiantes en fait qui ont fait cette mise en scène. Là pour le coup, voilà, parce que j'aime bien quand les lecteurs proposent des mises en scène. Ensuite, il y avait un petit enfant. Mmh. Alors lui, un jour, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Véronique Aubouy.
C'était en 2000.
Une autre.
Une autre, c'est vrai?
Oui. Alors, évidemment, tout de suite, je lui ai proposé de lire. Et je suis allée la filmer. J'ai filmé également sa fille. Et il y avait là un gamin qui avait 5 ans, qui s'appelait Oscar. Et au bout d'un moment, l'enfant a dit « Mais moi aussi, je voudrais lire ». Il savait lire, sa grande sœur lui avait appris. Donc il a lu. Et voilà. Moi, à chaque fois que je vois ce plan, j'avoue que j'ai beaucoup d'émotions. Parce que vraiment, à l'image, c'est un bébé, il est tout joufflu encore. Et la troisième personne, Simon Boccolo, lui, c'était donc en 1996 que je l'ai filmé. Et c'était juste après, 2 mois après les événements de l'église de Saint-Bernard. Hein, l'évacuation particulièrement musclée et violente qui. Voilà. Et donc il m'a proposé, enfin, c'est lui qui m'a demandé, en fait, de lire devant l'église. Donc, et il était accompagné de sa fille qui s'appelait Christelle.
C'est une histoire parallèle à celle de Proust, en fait, que vous racontez.
Oui.
Avec ces lecteurs-là. Alors, il y a beaucoup d'anonymes. Il y a quelques personnalités très célèbres. J'ai vu dans la liste que vous tenez qu'il y avait Annie Girardot, Mathieu Amalric, Jacques Bonafé. Au total, il y a combien? À peu près 1 millier de lecteurs qui sont passés devant votre caméra, c'est ça?
Plus. Il y a 1300 personnes, à peu près.
1300 personnes. Oui. Alors, est-ce que pour vous, il y a dans ce projet une dimension politique? Parce que je trouve qu'il y a une forme d'appropriation de l'œuvre en faisant lire. C'est un hommage à la lecture, c'est un hommage à Proust, mais c'est aussi une façon de démocratiser la littérature et de dire cette littérature, ces émotions, ce raffinement de la langue, cette compréhension du monde, elle est donnée à tous.
Peut-être que ça, c'est une...
interprétation de ma part.
Non, non, ce que fait le film, peut-être que c'est le résultat du film, mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon... Enfin, je ne cherche pas à faire cela. Par contre, ce qui est certain, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire le portrait, justement, par exemple, M. Boccolo, qui a souhaité lire devant l'église Saint-Bernard, c'est, pour moi, c'était vraiment important qu'il le fasse. J'ai trouvé que... Enfin, voilà, c'est... Donc, c'est un témoignage de notre époque, et évidemment, chacun, en choisissant le lieu où il va être filmé, parle aussi de lui et de notre époque. Donc oui, en ce sens, oui, c'est politique, puisque c'est un portrait de nous. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est vraiment, à chaque fois, un portrait d'une personne différente qui vient... Parce que, en fait, les fameuses deux pages ou trois pages, à l'époque, Simon Boccolo, c'était trois pages encore, il y a vraiment cette... Il y a le temps qui se... C'est-à-dire que le portrait devient complet. On a le temps, en six minutes, de vraiment voir comment la personne gère la façon dont elle lit le texte et comment le texte, comment elle gère les moments de panique, les moments où elle perd le fil, où elle retrouve le fil. On voit tellement sur une personne. Et c'est ça. Moi, ce qui est important, c'est de voir des êtres, de les voir vraiment. Et du coup, de ne pas généraliser, de ne pas les confondre avec d'autres. Voilà.
En tout cas, dans tous les cas, c'est une question de temps. Proust, puisque donc en parallèle de ce film, Proust lu, j'ai envie de dire ces films, mais il n'y en a qu'un seul pour l'instant, en tout cas dans cette version-là, parce que vous avez fait aussi un court-métrage sur Proust plus récemment, donc vous travaillez Proust sous tous les angles et sous toutes les coutures, si j'ose dire. Il y a ce projet de performance, donc Proust résumé en 60 minutes. Est-ce que vous renversez le projet d'une certaine façon, c'est-à-dire l'intégralité d'un côté et la synthèse de l'autre?
Oui, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, en fait, c'est de toute façon, c'est un rapport au temps, hein, puisque 60 minutes, c'est très court pour raconter l'énorme livre. Combien vous avez dit de signes? Un million. Un million et demi de signes.
De mots. Oui, de mots.
Voilà, de mots, bien sûr. C'est énorme. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ce nombre. Et voilà. Et donc, c'est, évidemment, c'est un rapport au temps. Alors là, cette performance, c'est autre chose. C'est-à-dire que, donc, je suis le narrateur, donc je suis un homme, hein, et je raconte, à chaque fois, en une heure, forcément, des versions différentes. Et je raconte surtout ce qui me vient, ce qui vient à mon souvenir de lectrice. C'est-à-dire que je me souviens de certains passages, j'ai envie d'en raconter certains. Ça vient aussi en fonction des gens qui sont dans la salle, parce qu'au début, je demande aux gens s'ils ont envie que je raconte une scène en particulier. Et alors après, je construis mon récit de manière totalement improvisée, en fonction de ce qui m'a été demandé.
Donc en ce moment, c'est deux fois par mois à la Maison de la Poésie, on est dans la petite salle du bas, il y a une lampe, une table basse, une chaise, un verre d'eau, parce que quand même, 60 minutes de parole, ça peut dessécher un petit peu. Vous arrivez avec à la recherche du temps perdu en disant que ça pèse 2,640 kg, et vous faites les présentations, et ensuite vous commencez, je vais vous parler de mon enfance, et en effet, on sent bien que d'une soirée à l'autre, vous ne racontez pas exactement la même chose, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours les fondamentaux de Proust, d'une certaine façon, un peu les clichés de Proust aussi.
Et alors, vous savez que une fois j'ai oublié la Madeleine, mais une fois seulement.
Mais sinon, la Madeleine à tous les repas.
Oui, exactement, à tous les repas. Oui.
Alors justement, si on parle de la Madeleine, est-ce que vous pourriez, puisqu'après tout vous jouez avec le temps et vous jonglez avec Proust, est-ce que vous pourriez nous raconter ici, à RFI, pour De Vive Voix, en une minute, puisque c'est un peu le temps radio, vous savez, un papier c'est une minute, la scène de la Madeleine. Est-ce que vous en seriez d'accord? Je vous piège un peu, à peine un peu. Est-ce que vous seriez d'accord? Parce qu'il va falloir déclencher le chronomètre, forcément.
Ah oui, donc vous allez me donner un départ et un stop, et vous m'arrêterez, comme dans la performance, au milieu même d'un mot.
Exactement. Enfin, donc vous en êtes d'accord? Donc vous vous concentrez, je vous laisse 5 secondes, le temps de vous concentrer. Donc grande scène de la recherche du temps perdu, ou comment le souvenir afflue à partir d'une Madeleine. Ça, c'est le titre de la séquence, si j'ose dire. Et Véronique Aubouy, je vous donne le top départ.
Alors, je trempe une madeleine dans du thé. Oh, je suis soudain envahie par un plaisir incroyable. Je cesse de me sentir médiocre, contingent, mortel. Par contre, je ne sais pas du tout d'où ça peut me venir. C'est une félicité immense. Alors, je sens que c'est lié à la saveur de la madeleine et surtout à ce côté ramolli du fait de l'avoir trempé dans le thé. Alors, je regoute, j'essaye à nouveau. Ça doit être un souvenir. Je sens que c'est un souvenir enfoui très profondément au fond de moi. Mais je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Alors je continue à chercher, et soudain, le souvenir m'apparaît. Ce petit morceau de madeleine, c'est celui que ma tante Léonie m'offrait, enfant, à Combray, quand j'allais la voir après la messe, après l'avoir trempé dans sa tisane. Et voilà. Et comme dans ce jeu...
Et c'est fini.
Ah, mais non.
Mais oui, c'est fini. Comment ça, il vous a manqué combien de temps? Qu'est-ce que vous vouliez raconter après la tisane?
En fait, je voulais raconter que tout mon passé était sorti, c'est-à-dire tout combrait, en fait.
Et toute l'enfance et tout le temps. Donc là, il vous a manqué un petit peu de temps. Mais en vrai, dans le spectacle, enfin, c'est pas tout à fait un spectacle, la performance, vous finissez pas non plus tout à fait. Il vous manque toujours quelques mots.
Oui. Mais oui, enfin, bon, de toute façon, le spectacle, vous savez qu'il m'est arrivé j'étais tellement partie dans des descriptions qu'à Sodome et Gomorre, qui est le tome 4, je finissais la performance et donc j'avais pas raconté ni le tome 5, ni le tome 6, ni le tome 7. Donc, non, ça peut être très grave parfois, mais je crois que c'est pas grave parce que de toute façon, Proust, on peut le prendre n'importe où. C'est ça vraiment qui est important pour moi de dire. Hein. C'est qu'il faut l'ouvrir n'importe où.
Mais alors, est-ce que cette proposition est faite pour un public qui a déjà lu Proust ou est-ce qu'il y a des spectateurs qui sont venus en vous disant « je n'avais jamais lu cet auteur et ça m'a fait découvrir une écriture, un monde, un récit, une histoire ». Est-ce que ça peut être... Est-ce qu'il est possible de venir voir ce spectacle sans connaître Proust?
Oui, bien sûr. Oui.
Vous avez
des
témoignages?
Oui, j'ai des témoignages. J'en ai beaucoup. Des gens qui me disent « Ah, mais ça y est, vous savez, je suis venue parce que j'avais jamais réussi à lire. Et donc, je vais le lire. » Et il y a une fois, une dame qui est venue me voir, qui m'a dit « Voilà, alors j'avais jamais lu Proust. Et je vous ai écouté. Et eh bien, c'est bien, je sais que je ne le lirai pas.
» Tout d'un coup, c'était un petit peu le résumé. Comme quand on révise les examens, on n'est pas obligé de lire l'intégralité de l'œuvre, mais on a les synthèses ou les résumés. Combien de personnages il y a dans Proust?
Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 500, mais ça, je ne sais pas exactement.
Et vous le racontez donc en 60 minutes, mais vous avez fait aussi la proposition de le faire en 7 heures.
Oui.
Alors là, forcément, c'est une autre temporalité. C'est très physique. Ça fait appel à quoi? À des qualités d'actrice que vous n'êtes pas, mais que vous êtes quand même sur scène, ou à des qualités de mémoire?
C'est plutôt vraiment la mémoire, en fait. Donc, quand j'ai fait les 7 heures, c'est un autre rythme. Parce que en une heure, il faut vraiment... J'en raconte un maximum, donc je...
Blablabla. Oui, et puis il ne faut pas trop rater quand même la Madeleine. Non. Et puis, il y a la mort de Bergotte. Et puis, il y a l'expression « faire Cattleya pour faire l'amour ». Et puis, il y a Charlus. Et puis, il y a le salon des Vers du Rhin. Enfin, il raconte quand même plein de choses, Proust.
Oui, mais...
Et on a envie de les retrouver. Quand...
Je ne raconte pas toujours les mêmes choses.
Pas
quand même.
Toujours.
La mort de Bergotte, rarement, malheureusement. Et Cattleya, pareil. Mais
c'est beau faire Cattleya pourtant.
Oui, c'est beau. Mais en tout cas, les 7 heures, ce qui est sûr, c'est que là, j'arrive à traverser, enfin, à donner beaucoup plus de scènes et à raconter tout. Et j'ai vraiment besoin de comment dire, physiquement en fait, d'être dans des lieux différents. C'est-à-dire que quand je me suis fait un parcours, alors pour tel tome, je serai là, pour tel autre tome, je serai là. Et le fait d'aller dans le nouvel emplacement me fait repartir. Fait jouer encore ma mémoire. Mais c'est vraiment affaire de mémoire. Là.
Mais du coup, vous connaissez la recherche par cœur?
Alors,
presque.
Je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Beaucoup de choses, oui. Mais bon, je ne sais pas, enfin, je suis toujours surprise par des passages que je relis avec un autre œil.
Et avec une autre mémoire, parce que finalement, la mémoire est mobile.
Ma préparation, c'est à chaque fois de relire le jour même.
Alors, vous parlez 4 langues étrangères, je crois. L'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Vous avez déjà raconté Proust dans ces langues-là?
Alors, je l'ai fait en anglais, à Los Angeles et à Londres. Et c'est dur, hein, parce que j'improvise. Et mon anglais n'est pas... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait la même chose qu'en français, c'est-à-dire que j'ai mémorisé des mots de Proust et que j'ai mêlé à mon langage banal.
Merci Véronique Aubouy. On peut vous retrouver à la Maison de la Poésie en compagnie de Marcel Proust ce samedi 26 juin. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.